Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Ravi de vous retrouver pour l'épisode 34 de la saison 6 avec toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous recevrons l'ancien demi de mêlée du castre olympique, aujourd'hui membre du staff, Rory Cocotte. Ce dernier a annoncé il y a quelques semaines qu'il quitterait le CO pour une nouvelle direction à l'issue de la présente saison. Évidemment, nous reviendrons sur toutes ces belles années dans le Tarn, mais pas seulement. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafute. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Et si vous êtes prêts, on va y aller. Poulain Rafute, saison 6, épisode 34. C'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain Raf Toulon s'est largement imposée lors de la dernière journée de top 14, c'était contre l'USAP. Ce succès permet au RCT d'intégrer le top 6, mais ce qui a retenu ton attention, ce n'est pas le résultat sportif. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui Arnaud, j'avais envie de les citer, il y a eu le Stade français dans les années 2000 et le RCT qui a pris la relève glanant des titres en Coupe d'Europe et en top 14 entre 2010 et 2015 avec une constellation de stars et un président tout aussi... Je dirais fou que Max Mouradou-Djellal, à la fois similaire sur bien des aspects, est tellement différent. Bref, après le passage de Bernard et ses troupes, difficile pour le RCT de se relever. Et c'est non sans un acharnement de la part du nouveau président, Bernard Lemaitre, que le club du Var arrive à renaître de ses cendres petit à petit. En tout cas, ils sont sur la bonne voie, comme le dit si bien Emmanuel Massicard dans son édito dans le milieu olympique. Le piège de la comparaison est un véritable poison. Et je rajouterai surtout, pour ceux qui restent, justement, la vue avec le Stade français dans les années 2000 et cette génération d'après qui a mis du temps à revenir, les Jules Plisson, les Flancard et bien d'autres. Mais aujourd'hui, voilà, la transition devient une pression parfois négative quand les trophées prennent la poussière et que la ferveur populaire, surtout sur la rade, devient presque oppressante, voire étouffante. C'est sanguin à Toulon, on le sait, et force est de constater que le caractère retrouvé grâce à Pierre Mignoni, l'enfant de Mayol, grâce à Franck Aedema, et amène tous les deux justement du rêve, de la gloire dans les têtes des supporters, des anciennes gloires et des joueurs sur le terrain. Alors Toulon rentre dans la danse des six en top 14. Toulon est en demi-finale de Challenge Cup. Mardi soir avait lieu, la soirée Hall of Fame en souvenir de la grande époque. Espérons pour la région et ses supporters que la nouvelle génération prendra enfin le pouvoir, comme l'ont fait tous les champions dans tous les clubs, et pour faire oublier un temps, la nostalgie d'un temps pas si lointain où le RCT roulait sur le rugby français.
Allez, deuxième partie aujourd'hui dans Poulain Rafute avec nous, une légende du castre olympique et je pèse mes mots avec le CO. Il a joué 280 matchs, inscrit plus de 1400 points. Il a mené le castre olympique au bouclier de Brennus en 2013, une année où il a été élu meilleur joueur du top 14. Un nouveau bouclier également pour lui et le CO en 2018 et ses performances en championnat lui ont ouvert les portes de l'équipe de France, 11 sélections avec les Bleus. Mais Raph, si tu tenais à recevoir aujourd'hui Rory Cocotte, parce que c'est bien de lui dont on parle aujourd'hui, si tu souhaitais le recevoir dans Poulain Rafute, c'était surtout parce que tu es fan du joueur et de son caractère. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors je ne vais pas me spoiler parce que je vais faire un petit portrait aux petits oignons quand même. Mais voilà, je suis ravi de l'avoir parce que je l'ai vu évoluer à Castres, même en équipe de France. Pour moi, il a toutes les caractéristiques du demi de mêlée que tu adores et que tu détestes. Et on va en parler. Moi, ma première question, Rory, j'ai joué avec Augustine Pichotte, qui était lui aussi un sacré bon camp. Est-ce que ça a été un de tes... C'est un joueur qui est de ta trempe. Moi, je voulais savoir si tu es un référent en termes de caractère sur le terrain. Tu connais, tu t'as connu et tu as vu évoluer Augustine Pichotte. Est-ce que tu te considères de la même trempe en termes de caractère?
Je ne les connaissais pas assez, je pense, de savoir exactement. Quand on était plus petit, on l'a bien sûr vu sur les écrans dans des grandes capacités de prendre les trous à les bons moments. C'était le numéro 9 pour ça. Parfois plaqué, je l'ai pas trop vu, mais c'était comme ça à l'époque, je pense, les neuf. Et bon, bref, moi, je voulais, sincèrement, j'ai adoré tous les internationaux qu'ils ont joué au poste de neuf, mais je voulais casser le moule un peu, sans faire exprès, de ce que c'était le neuf des années 2000 et avant, quoi.
D'accord, mais il y a quand même cette notion de caractère quand même. Tu sais que tu as été un demi-mêlée agaçant. Tu as la traduction française agaçant, ça te parle quand même. J'aimerais qu'on en parle quand même.
Oui, ça je comprends, mais ça dépend à quel côté tu es. Ça dépend qui tu es aussi. C'est sûr de toi, tu n'auras pas de souci avec moi. Mais si tu trembles, si tu as un peu de doute sur toi-même, en tant que l'homme que tu es, ça peut être difficile, tu vois. C'est ça la différence, je pense.
Bon, messieurs, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait de Rory, cocotte façon poulain Rafut. Rory, je te préviens, c'est maintenant, mais c'est un peu différent surtout.
Oui, parlons peu, parlons bien. Si on considère qu'un demi-mêlée idéal doit être roublard, meneur, beau-parleur, leader, chambreur, agaçant, on vient d'en parler, eh bien Rory, tu coches toutes les cases et pas que. Dans un rugby qui se cherchait au beau milieu des années 2010, je crois que tu nous as fait ressentir à nous, amateurs de rugby, à la fois de l'amour pour cette équipe de Castres et aussi de la colère, parfois tellement tu parlais dans la bouche des mecs. Benjamin Odapilleta nous a bien fait comprendre que tu étais aussi chiant sur le terrain que Bonnard dans la vie de tous les jours. Et ça rassure parce qu'on connaît peu, parce qu'il faut être il faut avoir une sacrée dose de confiance quand on était adversaire de Castres et plus précisément quand on était numéro 9 face à toi. Tu ronges, tu applaudis, tu chantes, tu ris, tu gueules, tu parles dans la bouche des types. Bref, tu fais découpiller tes adversaires et c'est justement aussi pour ça que tu étais l'un des meilleurs à ton poste ces 10 dernières années. Moi, tu me fais penser à un mec avec qui j'ai joué qui s'appelle Sylvain Marconnet, qui avait cette capacité de faire aussi dégoupiller ses adversaires. Un exemple, un souvenir, justement, et qui te parlera sûrement, oui, tes plus belles paroles. On joue à Leicester. Sylvain court à côté de Martin Johnson et lui dit « Run, Martin, run ». En mêlée, il lui glissait des push, Martin, push. Ni une ni deux, Martin Johnson dégoupille et relève une mêlée, lui met une droite, résultat carton jaune et on gagne en Angleterre. Eh bien, c'est typiquement toi, ce genre d'anecdote. Oh, je sais, oui, moi j'ai fait des loops sur toi pendant des longues minutes, pendant tes matchs. Je t'observais bien et combien de fois j'ai vu des petits accrochages de maillot, des petits mots bien placés, voilà, des petites nuquettes, des têtes appuyées contre le sol, toujours délicatement. Oui, tu rendais fou. Mais si Castres a récolté deux titres en 2013 et en 2018, c'est en grande partie grâce à cette force de caractère que tu représentais, toi, à travers Castres, et aussi avec toute cette génération des vieux briscards. Et rien que pour ça, chapeau l'artiste. Alors, Rory, on va rentrer, comme tu dis, on va rentrer dans le vif du sujet, on va revenir un peu sur ta carrière à Castres. Est-ce que lorsque tu as débarqué dans le Tarn, parce que qui n'est pas non plus la capitale du monde comme Paris ou comme Toulouse, mais qui est quand même vulgairement une putain de terre du rugby, est-ce que tu pensais y rester aussi longtemps et que tu marquerais aussi l'histoire de ce club?
Sincèrement, si tu m'as dit ça quand j'arrivais à Castres en 2011, le 11 juillet, une samedi, où il y avait trois chiens et une chat sur la place de Castres, j'aurais dit que tu étais malade. Tu vois. De rester 12 ans en gagnant deux titres, le premier dans 20 ans, et fini entraîneur, non, ça aurait été sûrement non. Mais oui, on est là. Je suis extrêmement, comment dire, je remercie énormément le club et la ville déjà, parce que c'est important, la relation au-delà de rugby qu'on doit partager dans la vie. On sait très bien, le rugby c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout. Et le fait que j'ai resté à Castres, c'était pour ça, pas que pour le rugby. C'est pour... On est d'accord qu'avec toutes les performances et toutes les statistiques qu'on regarde maintenant, avant tout, surtout, je pense, rugby restera l'histoire d'homme. Et l'histoire d'homme qu'on a créée à Castres, c'est quelque chose qu'on peut être fier là-dessus, mais aussi que je ne sais pas si on va le recréer, si peut-être les jeunes qui sont en place et qu'on reprend les places, qui eux, ils sont capables de créer cette dynamique qui nous a menés dans une situation favorable en 2013 et 2018, pareil.
Alors justement, Rory, puisque tu parles de ces deux titres, Raphaël a souligné effectivement cette force de caractère qui est en toi, qui est aussi ta marque de fabrique. Mais il n'y a pas que ça. Rory Cocotte, demi-mêlée, c'est aussi un défenseur hors pair. C'est un stratège hors pair. Ces deux finales, tu as été à chaque fois un élément majeur du succès castrais. Quel souvenir tu gardes de ces deux titres, Rory?
Franchement, à la 79, voilà, c'était la 80e minute, en 2013. Toulon, il a marqué un essai, mais c'est un essai à la fin pour rien, parce qu'on avait assez d'avance au score. Et il y a Romain Martial qui m'approchait dans la butte. Il avait des larmes aux yeux, il a pleuré. Je n'ai jamais vu de mec pleurer sur le terrain. La première fois en France, on a gagné. Et il m'a dit, tu ne sais pas ce qu'on a fait. Et franchement, pour 2, 3, 4, 5 ans après, je ne savais pas, je n'ai pas compris exactement ce qu'on a fait. Et seulement après le titre en 2018, que je revivrai notre moment comme ça, mais complètement différent, bien sûr, que j'ai compris ce qu'on a fait en 2013. Un premier titre dans 20 ans. Quand moi j'étais gamin, jouer sur les cailloux, il n'y avait pas trop de l'herbe en Afrique du Sud. Dans le jardin avec les copains, on rêve tous de marquer un essai de gagne à la finale. Et surtout, on rêve de faire une valise en tant que demi de mêlée pour marquer sous le poteau. Bon, c'était quelque chose qu'on dirait qu'on ne va jamais tenter, parce que quand on est dans cette situation, on a tellement trop peur d'oser, on a tellement trop peur de se tromper, de faire mal à l'équipe. Mais au fond de moi, je savais que la croyance que j'avais dans moi dans ce moment, c'est-à-dire, si tu veux arriver dans la vie, il faut prendre le risque. Mais j'ai pris le risque. 2013, c'était comme ça. 2018, c'était complètement différent. C'était une vraie leçon de tactique, une leçon de vrai mental, quoi. On avait
D'homme, en fait, d'histoire humaine, comme tu disais. C'est vraiment l'histoire humaine de mecs qu'on n'attendait pas.
C'est exactement. C'est l'histoire humaine, bien sûr, avec Christophe qui a apporté énormément ça, mais surtout la façon qu'on a analysé cette finale, la façon qu'on a analysé l'adversaire, qu'on allait au fond, au bout de l'humain qu'ils étaient. Et pas que le rugby, pas que les chiffres, que les défenses, les attaques, les jeux au pied, les passes, et les machines comme ça. C'était vraiment au fond de l'humain. On a découpé chaque individu dans une façon qu'on connaissait sa faiblesse et ses forces. Et bref, dans le moment, le score, ça a montré qu'il y avait presque pas match. Et en 2018, c'était le cas que... Ça montre que le rugby est tellement profond, et si on pense que nos systèmes qu'on met en place, nos travails, nos entraînements, ils sont aux petits oignons, on va dire, ça va rien dire. Parce qu'en tant que l'homme, qui font partie du système, de les hommes qui vont être sur le terrain, c'est beaucoup plus intéressant de jouer là-dessus que sur les statistiques.
Oui, j'ai eu la chance avec le Stade français d'être à la fois acteur et spectateur, et j'ai eu la chance de gagner quelques titres aussi. Et j'ai vu en fait l'histoire changer à un moment donné. Il y a un déclic à un moment donné d'une saison. En fait, en 2013, on l'a ressenti. En 2018, pareil, on ne vous y attendait pas. Et puis, quand vous rentrez dans ces phases finales, presque au dernier moment, vous allez au bout. Est-ce que... Tu l'as ressenti en 2013 et surtout en 2018, tu as l'air plus lucide sur l'année 2018 que sur celle de 2013. Mais est-ce qu'à un moment, tu as senti qu'il y avait ce qu'on appelle le supplément d'âme, ce moment où tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu pourrais nous citer de votre saison de 2018?
Supplément d'âme, on utilise beaucoup cette phrase. C'est dur à expliquer, ça va au-delà de ça, je pense. Parce qu'on peut l'amener nos âmes, mais si on n'est pas bien placé au fond de soi, si on n'est pas conscient au fond de nous-mêmes de le projet, de le défi en face de nous, on peut avoir l'âme qu'on veut, on passera pas, tu vois. Comme tu dis, oui, supplément d'âme, mais ça va plus loin.
Ça ne s'explique pas.
Dans le détail, on va dire. Le match de Toulouse, quand on le savait, aller à Toulouse, je crois qu'on l'a battu, on les a battus déjà chez eux, là-bas, cette année-là. On a gagné celui-là. Le vrai épreuve, c'était contre Racing. Et c'était là, c'était pour moi un des matchs les plus durs de ma vie. Mentalement, physiquement, parce que eux, c'était des grandes, grandes équipes hein, avec les joueurs qu'ils avaient. Laurent Labitte à travers qui nous a entraînés ici en 2013. C'est des vrais entraîneurs, des tacticiens, de meneurs d'hommes. C'est eux qui ont créé cette dynamique à Racing aussi. Et de le gagner dans cette façon à Lyon, je crois, c'était vraiment. Là, ces moments-là, on a dit. Même que n'importe ce qui peut nous arriver la semaine prochaine, on savait qu'on avait au moins le caisse pour aller au bout, que ce soit serré ou pas.
Rory, parlons un peu de ta carrière en équipe de France. On l'a dit, 11 sélections quand même avec les Bleus. Alors, malheureusement pour toi, ça n'a pas été la meilleure période hein, de l'équipe de France. Quand on voit aujourd'hui l'équipe de France, les résultats qu'elle obtient, quel souvenir tu gardes de ton passage en équipe de France? Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. On en parlait en introduction par rapport à l'hypothèse de voir Emmanuel Méafou intégrer le 15 de France. C'était sans doute pas ton rêve d'enfant de jouer pour l'équipe de France. Peut-être que tu rêvais des box. Mais quelle image tu conserveras finalement de ton passage en bleu?
Chose qu'on sait définitivement dans la vie, quand on est jeune, c'est qu'on va vieillir, c'est tout. Que j'aurais joué pour une équipe ou l'autre, je ne pourrais pas te dire. On rêve tous, quand on était jeune, d'être le Français. Par exemple, les Français ils sont battus le Black en 1999. Voilà, on a tous rêvé d'être les Français. On était tous Dominici à l'aile pour marquer l'essai. On était tous Galtier pour aller jouer là-bas. On était tous des Français, quoi. Bref, ma carrière dans le maillot bleu pour l'équipe de France, c'était quelque chose qui m'a marqué en tant que l'homme. Bien sûr, ça doit faire ça, je pense. Comme tu as dit, bien sûr, au départ, la période qu'on a vécue, ce n'était pas la meilleure période qu'on a vue en équipe de France. Surtout le sujet de l'étranger sur l'équipe de France, il faut être honnête, il faut être très honnête. Et la culture de laquelle on doit cultiver dans une équipe professionnelle. Franchement, c'était un moment que je voulais tout laisser sur le terrain. Je voulais tout donner pour le maillot de l'équipe de France. Chaque fois que j'entraînais, chaque fois que je faisais les tests physiques, la préparation Coupe du Monde, je n'ai jamais fait une préparation comme ça dans ma vie. J'ai allé toujours plus fort, plus loin, parce que dans moi, j'ai ça. Et ça n'a pas plaire à tout le monde, parce que je suis un gagnant au fond de moi. C'est comme on est. C'était pas pris peut-être dans le bon sens de quelques individus qui ont joué avec moi. Et malheureusement, ça compte dans une dynamique d'équipe, mais ce n'était pas que ça. Je pense que dans l'encadrement aussi, on avait des choses qui étaient différentes, quoi. Et on a vu dans le résultat, malheureusement,
La Coupe du Monde.
La Coupe du Monde, ce n'était pas la meilleure façon qu'on a sorti, surtout le quart de finale contre le All Black. Moi, je voulais toujours donner le meilleur de moi-même dans chaque moment que j'avais, que ce soit à l'entraînement, que ce soit sur le match. Oui, on aimerait tous avoir plus de caps, d'aller jouer plus, pas plus de caps, parce que ça, c'est juste un mot qu'on dit, on veut des caps, mais ce n'est pas ça. Il faut vraiment mouiller le maillot dans lequel on joue. Pour moi, c'est le plus important. Je rappelle la réaction médiatique que j'ai eue en étant en équipe de France. Ce n'était pas forcément positive, malheureusement, mais ouais, ça fait partie de où on vit, ça fait partie de la rugby en France, surtout. Et je rappelle un titre que c'était mis un autre copain à moi qui a joué Scott Spedding, et on dit que ils l'ont aimé, ils l'ont accepté comme une Français. Et moi, j'étais mal reçu comme un étranger, on va dire. Et ouais, c'était appris comme ça dans les médias et forcément ça va avec dans le vie quotidienne un peu. Et oui.
Tu l'as mal vécu, ça, Rory.
Et est-ce que c'est aussi ton côté aussi justement, tu parlais du côté perfectionniste et aussi gagnant à une époque aussi où voilà, on prenait l'homme en forme. Enfin, il y a eu ce rapport aussi aux arbitres qui surveillaient toujours. Enfin voilà, est-ce que c'est aussi l'homme qui peut être aussi un peu clivant ou est-ce que c'est le ce qui se passait en équipe de France à l'époque, enfin, tu vas pas parler de racisme, loin de là, mais que parles d'étrangers. Okay. Ouais. Pour toi, la problématique, ouais. Quelle était ouais, elle venait de toi aussi, elle venait de...
Bon, je sais pas, c'est difficile à répondre sincèrement, mais je crois que la façon que l'équipe de France elle est menée, elle est gardée dans les médias maintenant, c'est beaucoup plus amical, quoi. Mmh. À cette époque-là, c'était la guerre. Mmh. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et c'est forcément quand tu as des connotations autour qui sont un peu négatives, ça court très vite. Et oui, c'était aperçu comme ça. Et moi, au fond de moi, je veux garder un souvenir de jouer pour l'équipe de France en tant qu'une grosse partie positive de ma vie. Mais sincèrement, il faut être honnête, je ne suis pas déçu, mais il y a de petites tâches sombres qui ont malheureusement faisaient partie de cette époque. Et bon, ça, c'est la vie. Hein. Ça, c'est le sport pro surtout. Et je ne l'ai pas laissé... j'ai pas regardé dans ma vie quotidienne, et surtout pas dans ma carrière, parce qu'on faut qu'on... La façon que je relançais, je continuais après 2015, c'était important pour moi en tant que joueur, quoi.
Rory, tu as mis un terme à ta carrière l'an passé à l'âge de 35 ans. Quand on voit ta carrière, quand on voit le compétiteur que tu es, tu l'as rappelé encore, même sur les watt bikes, justement, dans la préparation en Coupe du Monde 2015, tu étais un des tout premiers, tu étais presque à devenir cycliste professionnel à la fin de la prépa. Est-ce que ça a été un moment difficile d'arrêter ta carrière ? Est-ce que tu as tout fait pour essayer de continuer, de prolonger le plaisir finalement ?
C'est toujours le plus facile. Aller plus loin. Vas-y, un an de plus. Vas-y, on joue une saison. Ouais, c'est bon. L'argent, il est bon. Ouais, vas-y. Non, vas-y, encore. Juste une, c'est bon. Je sens bien. Quand tu gagnes, je sens bien. Quand tu perds, moins bien. Ça, c'est l'option facile. Moi, je voulais vraiment arrêter sur le bon pied. Je voulais vraiment dire, allez, je sais quand je vais arrêter. J'ai annoncé le début de l'année que je vais arrêter à la fin de l'année. Pour moi, mentalement, pour ma famille, bien sûr, mais surtout en tant que l'homme, il faut savoir démarrer des choses, mais il faut savoir finir aussi. Il y a plein de joueurs qui ont malheureusement du mal à finir, et dans un bon état, à finir, il faut savoir finir, je pense. Parce qu'il y en a quelques-uns qui finissent dans un mauvais état mentalement, physiquement, à cause de ça. Oui. On a tous vécu des carrières différentes, on a tous une mentalité différente. Mais moi, je voulais être. Je voulais finir comme j'ai démarré. Et oui, bien sûr, je n'ai pas fini ma carrière à Castres exactement dans les meilleures conditions sportivement, on va dire. Mais ça, ce n'était pas à moi, ce n'était pas mon choix. Et,
ça a été dur, ça ?
Je ne suis pas responsable là-dessus, oui.
Mais ça a été compliqué ?
Bien sûr, il faut être honnête, hein. Il faut être très honnête. Il ne faut pas dire que oh ouais, je m'en bats les couilles, que ça veut dire que ouais, ça va, je joue assez de matchs pour Castres, c'est bon. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'en tant que l'homme que tu es, et ce qu'on a fait pour le maillot surtout, moi je dis, les premières quelques années que j'étais à Castres, je savais que je vais rester, que... Ce qui est important pour moi, c'est de laisser le maillot dans la meilleure façon qu'on l'a trouvé. Et je pense après 2011 jusqu'à maintenant, j'espère que j'ai laissé le maillot de numéro 9 dans une meilleure position que où je l'ai trouvé. Le fait que je n'ai pas joué, pour moi, c'était un signe de l'état d'esprit qu'on avait à Castres dans ce moment. C'était une signe de l'état d'esprit de, bien sûr, l'encadrement. L'importance, oui, c'était l'équipe pour jouer le meilleur. Mais c'était bizarre la façon que les hommes, si on est homme, on se dit les choses. Et on se dit les choses moins dans une façon honnête. À dire, ouais, Rory, désolé, tu ne veux pas jouer ton dernier match. Oui, ça, c'est. Là, je comprends, super. Pas de souci. Mais malheureusement, quand il n'y a personne qui dit un mot, jusqu'à la fin de saison, et après, même pas rien. Ben, voilà, c'est dire, c'est bizarre, c'est pas le casque que je connais, quoi.
Et alors, est-ce pas... que c'était justement, là, Rory, est-ce que c'était la fin d'une époque, la fin d'une génération? Là, tu viens de passer justement de l'autre côté. On parlera du côté entraîneur après, qui avait l'air une évidence pour toi, mais est-ce que justement, est-ce que c'était la fin justement d'une génération? Tu as connu 2013 et cette évolution avec les Combezou et Armand Battle et tous ces mecs-là. Enfin, voilà, vous êtes les vieux briscards aujourd'hui. Armand qui aujourd'hui est kiné, toi qui es à l'entraînement. C'est la fin d'une époque aussi, peut-être aussi, les changements de mentalité, non?
Ouf, changement de mentalité, je ne sais pas, parce que sinon, on aurait gagné le final l'année dernière. Bon, on avait Benji, on avait Julien Demora, on avait Thomas Combezou qui a joué. Il y avait Loïc Jacquet, il y avait des Mathieu Babio, des joueurs comme ça qui ont joué avant. Il y avait un changement de mentalité, mais si ça aurait été dans le bon sens, je pense qu'on aurait gagné le final. On a fini, terminé premier, c'est super, mais malheureusement, le top 14, ça se joue jusqu'à le dernier 25 juin, on va dire. Oui, mais tu sais quoi tu peux le regarder de toutes les façons, mais quand on voit ce que représente le valeur du Castres et ce que représente le maillot et le peuple castré de qui on est, et comment on doit être pour porter le maillot de Castres, on verra et on a vu surtout qui on doit être par rapport à notre performance cette saison. Et la façon qu'il y a quelques mois, on n'était pas dans un bon état. Et ça montre que la mentalité qu'on avait, je pense, pour moi personnellement, hein, c'était, ça ne portait pas les valeurs qu'on l'a eues avant. Mais surtout, ça ne portait pas le qualité de humain qu'on doit avoir dans une équipe de Castres.
Rory, tu as donc franchi le cap, tu es passé de l'autre côté de la barrière, tu es entraîneur au Castres Olympique, tu as intégré un staff. Ça n'a pas dû être facile, vu comment s'était terminée la saison précédente, d'intégrer un staff et en plus une saison compliquée. Tu as connu pour ta première année en tant qu'entraîneur deux managers, tu as débuté avec Pierre-Henri Broncan, tu termines avec Jérémy Davidson. En plus, tu as été obligé de rechausser les crampons pour rendre service à ton club. Comment tu as vécu finalement cette première expérience?
Ouais, une année bizarre, on va dire. le début d'une année, on va dire compliqué. J'ai senti les côtés humains, c'était... Bon, Rory reste à Castres, mais c'est comme ça. Je m'en fous de le reste, quoi. Et ça, c'était bizarre parce que moi, je voulais donner pour l'équipe et c'est surtout je voulais donner pour le joueur et le maillot, ce que ça représente, l'équipe de Castres. Et je ne sais pas si toutes les intentions et tous les sentiments que moi j'ai passé entraîneur, c'était pareil partout.
Tout le monde ne le partageait pas?
Je ne sais pas. Mais bon, bref, mon avis, c'est que si dans les relations humaines, il y a des failles, ça montrera dans la performance. On ne peut pas avoir une performance très haute sans avoir les hommes au-delà de ça. Si les hommes et les relations humaines ils sont en bas, nos performances seront pareilles, je pense. Et c'était le cas entre le joueur et surtout pour moi en tant que staff, les relations c'était pas où c'était avant à Castres et c'était pas où ça doit être pour être performant en tant que professionnel. le fait que j'étais entraîneur. Et au mois de décembre, au mois de novembre, il y a une demi-démêlée qui fait les croisés. Il y a une autre, trois semaines après, qui fait les chevilles. Là, je n'y croyais pas, quoi. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de place pour moi. Et cette année...
il fait Rory, le tapis rouge, quoi.
il faut que tu joues. Oui, OK, pas de problème. Bon, j'étais, bien sûr, j'étais preneur. Je voulais donner parce qu'au fond de moi, c'est ça. S'il y a quelque chose à faire, même n'importe que ce soit le défi, j'ai envie de le faire. Physiquement, mentalement, c'était la chose la plus facile que j'ai jamais fait, je pense.
Physiquement aussi.
Physiquement, je pensais être en difficulté, mais j'étais surpris. Je garde la forme un peu, bien sûr. Je suis comme ça. Je suis pas trop bière apéro. Du coup, ouais, je passe un peu de rouge, mais ça va, ça passe dans le sport. Quoi. Et du coup, oui, jouer, c'était une grande privilège pour moi encore. Mais je savais dans le dynamique qu'on avait dans l'équipe, c'était très dur. Pour moi, oui. Mais franchement, j'ai trouvé une très belle défi dans la vie, tu vois. Parce que dans la zone de confort, on n'avancera jamais. Je suis désolé. Je ne suis pas comme ça. Et c'est vraiment en dehors de ça qu'on sait les hommes qui on est. Et c'était dur d'entraîner. Mais c'était facile de trouver une relation avec les joueurs qui était franchement énorme. J'ai très bien... vécu cette période en tant qu'entraîneur-joueur, avec le joueur sur le terrain, sur la connexion, sur la compréhension de toutes les choses. C'était une vraie partage, mais ça, de la part du joueur aussi, il faut que je le remercie et féliciter aussi, parce que ce n'est pas évident d'avoir un mec à côté qui te dit « bouge le cul pour aller nettoyer le ruck », mais après, dans la vidéo, il te dit « bravo, bon job », tu vois. Oui, c'est parti, c'était pour moi évident, pas évident. Et le fait que je jouais mon dernier match à Exeter dans une façon que, très compliquée, je joue contre Exeter à l'extérieur, je savais que ça allait être mon dernier match. C'était un super défi. On n'a pas gagné, mais on s'est battu comme des chiens. On était 12 contre 15, on n'a pas pris un essai. Pour moi, c'était une magnifique façon de finir ma carrière. N'importe que ce soit le résultat, hein. Parce que si on se calcule que sur le résultat, ouais, sauf si tu es Toulousain, tu es content, toi, parce qu'ils gagnent souvent. Et nous, on était très contents, moi personnellement, j'étais très content de la façon que on a abordé ce défi, quoi, même si on a pris quelques points à la fin.
Rory, tu as annoncé oui, pardon, vas-y, Raph.
Non, mais j'allais rebondir sur ce que tu allais dire, que Rory venait d'annoncer il y a quelques semaines qu'il quittait le Castres Olympique. À la fin de saison, je pense qu'on a compris un peu, on a réussi à lire entre les lignes aussi le pourquoi du comment tu avais pris cette décision. Moi, la question que je me pose et qu'on se pose aussi à Carnot, c'est de quoi sera fait ton avenir? Est-ce qu'on a, alors, tu connaissais peut-être pas trop Poulain Raffut, mais bon, on va aller à la pêche et normalement, c'est le boulot d'Arnaud d'aller te dire est-ce qu'il n'y a pas un petit scoop derrière? Mais est-ce que tu sais où tu vas aller? Est-ce que c'est vers le nord, vers l'ouest, vers le sud? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 indices? Ou est-ce que c'est un retour aux sources, peut-être, aussi?
Sincèrement, j'aurais aimé dire où on déménage. Mais je ne sais pas si je vais être plus loin ou plus proche de la capitale, de les Alpes, les Pyrénées... ou le Massif central, je ne sais pas, sincèrement. C'est dur de dire en ce moment. Je pense que je vais être en France. Bon, il faut savoir, dans la vie, je pourrais aussi prendre n'importe quelle chose arrive, parce que ça aussi, c'est facile de faire. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment alignées, avec les valeurs que je vivre et avec les choses dans lesquelles je crois, c'est dur de prendre juste un autre chemin pour le prendre. Mais sincèrement, on a besoin de faire les choses et on a besoin des fois d'être en dehors de la zone de confort. mais c'est où je suis. Même si je vais pas dans un autre club français, j'y vais ailleurs. C'est comme ça. Et dans la vie, dans certains moments, on doit sacrifier les choses. Parce que, oui, je sais pas, j'ai même pas demandé s'ils voulaient me garder à Castres. Mais je l'ai surtout dit bien en avance que c'était mon choix. C'est difficile. Pour moi, sincèrement, c'est difficile, très difficile de faire un choix tellement... pas dur, mais c'est tellement concret que j'ai passé 12 ans ici, je pourrais passer 15-20 ans peut-être. Et ça aurait été peut-être le vouloir de le président ou de les autres que je veux que je reste à Castres. Et j'étais à l'opposé. Et il faut dire que ce n'est pas facile parce que les choix faciles, tout le temps, on le prend. D'être à l'aise dans les choses qu'on fait, on veut ça. On cherche d'être confortable. D'aller au-delà de ça, c'est vraiment difficile. Mais je sais très bien qu'au bout de le chemin, il y a des choses qui seront plus intéressantes dans la vie de moi personnellement, surtout dans la vie familiale. Malheureusement, un chapitre de ma carrière à Castres va peut-être se terminer et il y a des choses après. Ouais.
Alors justement, Rory, si on a bien compris, on sait que ton avenir s'écrira peut-être en France, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Mais avant de partir de Castres, tu es obligé de nous faire une confession quand même. Qu'est-ce qui va te manquer le plus au Castres Olympique? Est-ce que c'est Benji Urdapileta, par exemple, qui va te manquer?
La vérité, c'est que on doit avoir une relation avec les joueurs en tant qu'entraîneur, en tant que prépa physique, kiné. On pense toujours au nez au-dessus et à hiérarchie. Mais je pense, c'est notre génération. Et la génération, elle est beaucoup plus câblée et beaucoup plus sensible que la génération à l'époque. On a pris des phrases, on a été ciblé, tué, tiré au salle de vidéo sur le terrain. On avait des pots comme ça. Tu vois. Mais maintenant, je trouve que le joueur, on a besoin d'une vraie relation avec les entraîneurs. On voit d'ailleurs, par exemple, l'entraîneur de Crusaders qui va être
entraîneur, Scott Robertson,
ouais. Qui va être entraîneur de All Blacks. Quand tu vois après les matchs, quand il gagne, les relations qu'il a avec le joueur, c'est pas pareil. Et on veut forcément se montrer fort, se montrer en hauteur, mais d'en sortir le meilleur. Mais c'est mon avis, d'en sortir le meilleur des hommes dans lesquels on travaille, on doit être vulnérable des fois. On doit être honnête en disant que je me trompais. Moi, je me trompe aussi, comme vous sur le terrain. Je me trompe en tant que joueur, en tant qu'humain, en tant que l'homme. Et on part de ça. D'être fort, d'être toujours dominant. Oui, ça marche dans certains états d'esprit. Mais dans la façon que moi, je veux travailler, c'est dur d'être comme ça pour moi. Ouais.
Bon, tu nous as fait une réponse qui est très, très belle, très sincère. Mais on ne sait toujours pas si Benjamin Urdapileta va te manquer.
comme je dis, relation, c'est extrêmement important. J'ai une super relation avec le joueur. Si je citais qu'un, il va être déçu. Les autres,
d'accord.
mais au-delà de ça, de le joueur à Castres, on a une vie et une relation que j'ai avec des simples bonhommes à Castres. Mon ancien voisin, c'était comme mon père français, c'était un catalan, il m'a appris à parler français avec un accent du sud que je n'aurais jamais pris ailleurs, ni à Paris, nulle part. Et la relation que j'ai avec... Le boucher, tu vois, la relation que j'ai avec quelques partenaires et beaucoup de partenaires qui sont très proches au club. C'est relation comme ça qu'on gardera pour le vite. Au-delà de la partie sportive, au-delà de la partie performance, c'est ça qui compte pour moi, sincèrement. Oui, il faut être performant parce que c'est un sport pro. Et au fond de moi, je pense que ça, j'y ai naturellement. Mes relations au-delà de ça dans la vie quotidienne est tellement important dans la performance d'homme parce qu'on doit avoir des... Comment on dit, des tableaux quand tu mets dans une chambre qui a pas de son dedans, tu vois, ça rebondit le son, tu vois. Les hommes dans la vie ont besoin des hommes comme sur le mur, tu vois, pour rebondir des choses, rebondir des idées, rebondir des phrases, rebondir. On a besoin de les hommes autour de nous pour rebondir des choses. Que ce soit, putain, je suis vraiment con parce que j'ai mal travaillé ou j'ai fait. Et de relations, si on les garde tous au fond de nous, si on est tout le temps fort, on n'est jamais à la faute, on se brûle à l'intérieur. C'est difficile d'être un vrai homme, je pense, d'être comme ça. Du coup, oui, la relation en dehors de la ville et en dehors de le club qui est extrêmement important, et c'est ça qui va vraiment manquer à Castres, même si je vais revenir, ça peut être une heure de route ou 10 heures, on ne sait pas, peut-être 10 heures d'avion, on ne sait pas, oui. Et du coup oui, tu peux toujours revenir, tu garderas ces relations pour la vie. Et c'est pour moi ça, c'est important. Ouais.
Allez, Rory, cette émission touche à sa fin. Le mot de la fin dans Poulain Rafut, il n'est jamais pour l'invité, il est toujours pour la star de l'émission, c'est Raphaël Poulain. Raph, on a le sentiment que Rory Cocotte, le joueur, était un joueur qui ne trichait jamais, qui ne mentait jamais. Et on a découvert dans ce podcast que l'homme était pareil, non ?
Arnaud, Rory, vous ne m'avez pas trop entendu, je n'ai pas trop posé de questions parce que j'ai sorti des pop-corn et j'adore le côté humain et j'avais envie de connaître l'humain derrière le sportif parce qu'on a toujours tendance à mettre les gens dans des cases, c'est très humain, tu vois, des caricatures un petit peu, oui Rory c'est un boucan, oui Rory il parlait dans la bouche des mecs, c'est le portrait du début, mais à la fin tu vois, je pense que ça a humanisé, on a pu écouter, vraiment j'ai vraiment écouté, je trouve ça passionnant parce que Rory, je pense que tu es l'un des premiers à nous parler de vulnérabilité. Si on m'avait dit un jour que Rory Cocotte nous parlerait de vulnérabilité, tu casses les codes en fait du rugbyman gladiateur qui pense avec ses couilles et son cœur et qui est larvé de muscles. Toi, en plus, tu en avais un peu plus. J'aurais voulu te poser la question de ce putain de bras, cette légende du bras. Parce que le côté muscle, tu l'as. Mais l'homme derrière qui arrive à accepter la faiblesse de se dire oui, là j'ai merdé, oui, là je me remets en question. Tu sais, Arnaud, moi, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et que j'adore le coaching mental, Rory. J'adore la psychologie, j'adore la philosophie. Et tu nous as bien montré que derrière l'armure, il y a un homme, et pour conclure, Rory, on le sait que quand une carrière s'arrête, ce n'est pas les 10 000 personnes sur le terrain, même si autour du terrain, même si le public est hyper important, c'est le croche-patte à l'entraînement, c'est tous les mecs qui te font devenir un homme, tous les mecs qui te font devenir humain, et quand tu te retrouves seul face à toi-même, même avec tes enfants et ta femme, il y a toujours un truc qui te manquera, et ça te garde un pied dans l'adolescence, c'est ce qui nous forme en tant qu'homme. Donc, c'est ce que j'aime dans ce podcast, et je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi, et surtout de t'avoir écouté, parce que c'était passionnant. Voilà.
Oh, merci. Il faut que je termine. Je pense que je suis complètement d'accord sur l'aspect humain et tout ça. Mais quand les gens ils me voient sur la télé en disant que ou sur les réseaux sociaux, on va dire, ils ont vu que dans des matchs de rugby. Et le sport, c'est pas la vie. Hein. Ça c'est sûr. Les hommes qu'on a sur le terrain, ça n'a rien à voir avec qui on doit être en dehors. Et pour ça. Et si toi, au fond de nous, on recevoir les tapes sur le dos tout le temps, hein, on recevoir les tapes dehors, t'es la meilleure, vas-y, ouais, go, encore. Et quand tu es en bas, Rory, t'es nul, tu recevoir ça aussi. Mais ce qui est le plus important de tout, c'est à la fin de la journée, quand toi, tu regardes dans la glace, au fond de toi, yeah. Au fond de toi, il y a une vraie raison d'être. Et au fond de toi, il y a une vraie connaissance de qui on est. Et il y a surtout un amour pour moi-même. Et si on ne peut pas être capable d'aimer les gens qui on est, on sera triste pour un long temps, je pense.
Eh bien, c'est un très, merci. Très joli mot de la fin. Un grand, grand merci, Rory. Et j'invite évidemment tous ceux qui vont télécharger ce podcast à bien écouter, à bien comprendre les propos de Rory Cocotte aujourd'hui. Messieurs, nous, on va enchaîner avec la troisième partie. Rory, on te souhaite évidemment le meilleur pour la fin de saison et surtout pour les années futures, en famille, à Paris, à Clermont, à Marseille ou peut-être en Afrique du Sud. Merci Rory, et à très
bientôt. La ferme familiale peut-être, dans la ferme familiale peut-être. Merci Rory, au plaisir.
Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Merci.
Allez, troisième partie dans Poulain Rafute aujourd'hui. Raph, d'abord, Emmanuel Méafou, hein, le deuxième ligne du Stade Toulousain, qui a annoncé dans le Télégraphe chez nos confrères donc anglo-saxons son souhait d'évoluer sous les couleurs du 15 de France. Il a annoncé également qu'il avait refusé finalement les avances d'Eddie Jones, le sélectionneur des Wallabies, nation pour laquelle il était sélectionnable, et il espère disputer le tournoi Destination 2024 une fois son éligibilité validée. Peut-être même qu'elle interviendra avant, c'est en cours. En tout cas, la Fédération française de rugby a entrepris des démarches auprès de World Rugby en ce sens. Et visiblement, ça t'a interpellé, Raph. Tu peux nous en dire plus ?
Ouais, écoute, moi, j'aime bien l'idée. Alors, souviens-toi, il y a quelques années, j'avais pris la parole en disant « on va chercher les Fidjiens, on va chercher plein de mecs, justement, d'horizons différents ». Mais d'ailleurs, Henri Cocotte en faisait partie à l'époque. Parce que dans le vivier du rugby français, on n'avait pas les joueurs et aujourd'hui, on les a. Mais bon, voilà, faut essayer de constater que Paul Willemse, justement sud-africain, qui a été naturalisé, fait les beaux jours du 15 de France. Il y a pléthore de joueurs aujourd'hui qui peuvent jouer à la fois en deuxième ligne, même Thibaut Flamand qui peut jouer deuxième ligne, troisième ligne. Donc voilà. Et puis la gamelle est bonne parce que l'Australie est une nation qui est peut-être un petit peu moindre aujourd'hui que la France, qui fait surtout rêver aujourd'hui. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc ça fait rêver un petit peu tout le monde. Donc Méafou, qui aurait toute sa place. Tu imagines un Méafou à côté d'un Willemse, ça aurait quand même pas mal de gueule. Mais bon, voilà, t'as Théophile Fenua aussi derrière. Qui pousse, donc qui a montré qu'en tant que titulaire, il pouvait avoir sa place. On a la chance d'avoir un vivier, tu le sais, on a déjà parlé à tous les postes aujourd'hui, on a cette chance-là, donc ça rajoute encore une corde à l'arc de Fabien Galthié et ses acolytes. Ça va être compliqué de choisir, mais bon, après, voilà, il y a aussi ce joueur aussi de Montpellier aussi, qui est Chalureau, qui il y a d'ailleurs dont l'article est absolument super dans le Midi Olympique, qui pousse aussi, qui rêve de la Coupe du Monde. Voilà, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus pour cet événement. Méafou, on en a parlé pendant le tournoi des Destinations. Il est venu s'entraîner avec l'équipe de France. Est-ce qu'il aura sa place ? Nous verrons dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais voilà, ça serait un apport de poids un peu plus encore à cette équipe de France qui est déjà magnifique.
Allez, Raph, on enchaîne avec un coup de cœur pour un joueur. Deux essais et un match incroyable pour cette flèche le week-end dernier. C'était contre Brive. Il avait reçu un Oscar au Midi Olympique quelques jours avant pour l'ensemble de son œuvre, que ce soit avec le 15 de France ou avec le Stade français. Vous avez compris, évidemment, de qui je parle, c'est de Sekou Makalu, et c'est ton coup de cœur de la semaine, Raph.
Oh ben, qui n'a pas de coup de cœur pour Sekou Makalu ? Alors moi, mis à part le fait que je ne connaisse pas le son de sa voix, parce qu'on l'entend très très peu dans les médias, c'est un joueur très discret, mais qu'il ne l'est pas sur le terrain, ça fait quand même des années qu'on le voit évoluer au Stade français, en équipe de France. C'est dur de ne pas le voir titulaire en équipe de France, et pourtant je ne remets pas du tout en question la hiérarchie des troisièmes lignes au sein de l'équipe de France, qui sont tous les trois énormes. Aldrit, Jolos qui est blessé, mais Cross qui revient. Mais voilà, l'impact player qu'il est aujourd'hui au Stade français et surtout en équipe de France, c'est juste monstrueux. Makalu aujourd'hui est hors norme, mais je trouve que c'est un joueur qui est extraordinaire, qui peut jouer troisième ligne, qui peut jouer ailier, qui a montré tout son panel de compétences sur le terrain, et ça fait du bien. Alors oui, Brive est un petit peu dans le dur, mais bon, ça a été la même chose contre Montpellier, je me souviens, il n'y a pas très longtemps. Chaque match, il y a un éclair de la part de Sekou, et donc voilà, oui, c'est un joueur du Stade français, oui, je suis supporter du Stade français, mais au-delà de ça, il a une classe et qui est hors de la norme, et c'est pour ça qu'on voulait avoir ce coup de cœur pour lui. Il mérite cet Oscar, bien entendu, et il mériterait d'avoir une place de titulaire en équipe de France, mais ça n'est que mon point de vue de simple supporter du Stade français, voilà.
Il est fort probable quand même que Sekou Makalu sera de la partie pour le prochain mondial en France. Raph, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours sur les plateformes d'Eurosport. Merci encore. Poulain Rafute, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et toujours évidemment avec la banane.
Merci beaucoup Arnaud, et merci aussi à Antoine Le Breton qui était réalisateur de cette émission. À la semaine prochaine. Au revoir.